Nous sommes au mois de février. Et le 14 février, qu'est-ce qui se passe? C'est la Saint-Valentin. Qui est intitulé les 5 langages de l'amour. Et nous avons commencé. Alors nous, la Saint-Valentin, c'est toute l'année. C'est ça avec le Seigneur Jésus. C'est ce que le Seigneur dit, que c'est chaque matin qu'il renouvelle ses bontés. Et sa bonté est remplie d'amour. Mais quand même, j'ai voulu saisir cette occasion pour parler avec vous et aborder ce que Gary Chapman, un pasteur, conférencier, spécialiste sur la question du mariage et de la vie de famille, auteur de nombreux livres sur le thème. Et il a établi une liste qui est vraiment une liste de référence dans le monde entier, dans ce domaine. Il appelle ça les 5 langages de l'amour. Les 5 langages de l'amour, ce sont les 5 moyens d'exprimer et de faire comprendre notre amour à notre prochain. Ces 5 façons universelles, que quelle que soit notre culture, notre éducation, nous sommes tous sensibles au fond de nous à ces 5 manières. De manière plus ou moins forte, les uns seront plus sensibles à une manière plutôt qu'à une autre, mais tous nous ressentons l'amour au travers de ces 5 manières de les exprimer. Comprenons bien que ce n'est pas seulement une des 5 manières, mais c'est véritablement les 5 manières. Communiquer de l'amour, faire comprendre notre amour à quelqu'un, c'est savoir exprimer au travers de ces 5 manières notre vrai sentiment. Alors, non seulement ça nous permet nous-mêmes de nous remettre en cause, nous évaluer, de dire tiens, est-ce que je suis capable de communiquer de l'amour au travers de cet aspect-là? Est-ce que je suis sensible à pouvoir communiquer et faire valoir à l'autre, à le faire sentir que je l'aime au travers de... La dernière fois, on avait vu par exemple des paroles valorisantes. Et ce soir, on va voir également au travers le contact physique affectif. Mais au-delà d'un rapport qui nous est personnel et utile, on va aussi... Lui qui est l'auteur de l'amour, voir si Dieu lui aussi se servait de ses moyens de l'amour pour révéler ce qu'il prétend être. Je suis amour, mais c'est bien de le dire. Certains disent je t'aime, mais les œuvres sont où? Alors on va voir dans quelques semaines si quand Dieu dit je t'aime, je vous aime, on va voir si véritablement il a communiqué ou pas ces 5 langages de l'amour. Le contact physique, affectif. Il y a dans la brochure que nous utilisons dans le travail d'accompagnement parental, il y a cette phrase qui dit « Pour qu'un enfant survive, il faut le serrer chaque jour au moins 4 fois dans les bras. Pour qu'il survive. Pour combler son besoin, il faut le serrer au moins 8 fois dans les bras. Et pour qu'il ait de quoi grandir, il faut le serrer au moins 12 fois dans ses bras. » C'est-à-dire, cela montre que combien un enfant a besoin de ce contact physique affectif. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. Cela est même nécessaire à la construction de notre personnalité. Peut-être qu'au milieu de nous, ils sont de cette génération où on a peu manifesté de l'amour au travers de ce contact physique. N'empêche que cela a manqué. Et tous le disent. J'ai pas eu ce rapport avec mes parents. Peut-être qu'ils ont réussi à le combler avec leurs propres enfants. Mais c'est un manque. Il y a des statistiques qui montrent que quand un enfant, notamment les jeunes filles, quand elles n'ont pas eu ce sentiment d'être aimées dans leur propre foyer, par ce contact physique, par leur propre père, alors elles vont le rechercher le plus tôt possible au premier qui lui dira je t'aime. Et il y a des statistiques qui montrent que quand il n'y a pas eu ce contact physique, on n'est pas dans une notion d'attouchement, on se comprend, on est vraiment dans une question de pur de ce contact physique, alors cela est une perte pour la construction même de l'identité et un manque dans le cœur de l'enfant qui deviendra plus tard un adulte. Un adulte et même parmi les personnes âgées. Certains pourraient mieux parler que moi. Mais les personnes âgées qui souvent se retrouvent seules souffrent de ne plus avoir ce contact physique. Et quand même, elles apprécient de prendre une main, de sentir la chaleur d'une main, parce que ça leur manque. Alors elles n'ont plus la vigueur, elles n'ont plus, allez, parlons vrai, l'attrait pour attirer à eux les câlins, les bisous et le contact physique. Peut-être même pas la force pour certaines. À tel point que dans les maisons de retraite, on développe ce, et on essaye de pallier à ce besoin en mettant de plus en plus des systèmes avec la présence d'animaux, de chiens. Et le contact là, vivant de cette petite boule pleine de poils qui est amusant, qui permet de retrouver un contact physique, redonne de la chaleur à ces personnes âgées. Le contact physique n'est pas à négliger. Il fait partie de notre identité, de notre construction. Nous sommes faits ainsi et ce n'est pas un reproche. Je vous invite à ouvrir votre Bible en Marc chapitre 10. Et on va voir que Jésus lui-même, quand il était sur terre, ne négligeait pas non plus ce contact physique. Il n'était pas non plus celui qui se tenait à distance, mais il était celui qui avait conscience que ce contact physique avait un message, une valeur. Il communiquait quelque chose. Marc chapitre 10, verset 13. On amena à Jésus des petits enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, et voyant cela, fut indigné. Il leur dit : mais laissez venir à moi les petits enfants. Et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Il aurait pu en rester là. Puis, il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Jésus, qui est l'image du Père. Jésus qui n'est pas un autre Dieu ou un sous-Dieu. Jésus qui est Dieu incarné. Ce Jésus qui est Dieu est celui qui nous a créés. Il sait de quoi nous sommes faits. Il connaît nos besoins. Et ce n'est pas seulement là un élan affectif au sens mielleux du terme, mais il sait qu'il répond là à un besoin. Un besoin spirituel, laissez venir à moi les petits enfants et il les bénit. Dieu est conscient que déjà dans le cœur de l'enfant il y a une aspiration spirituelle. Ne tardons pas à leur enseigner les valeurs de la parole de Dieu. Le cœur de l'enfant est prêt, il est disposé, il est bien plus sage et instruit pour les choses spirituelles que nous les adultes où nous on met des barrages, des filtres et des raisonnements qui mettent à distance la foi. Le cœur de l'enfant est fait pour l'évangile. Mais il ne néglige pas non plus le contact physique affectif. Il les prit dans ses bras. Jésus, le Fils de Dieu, nous montre là un exemple. Un exemple. Nous devons également être de ces hommes, de ces femmes qui agissons comme Jésus. Dieu ne s'est pas contenté de nous dire « aimez-vous ». Mais il en a montré l'exemple. Il ne s'est pas contenté de donner des ordres. Ah, il faut que vous fassiez comme ça. Mais il a montré lui-même le chemin. Au sein du couple, le Seigneur nous invite à avoir également ce contact physique, affectif. Et on pourrait même préciser là, dans le cadre du couple, même intime. Ça fait partie également de la construction du couple, de la nécessité du couple. On lit ça en 1 Corinthiens chapitre 7, je vous lis le verset 3 à 5, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas à la femme de disposer de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble. Il y a, dans le rapport physique, rien de tabou, rien de mauvais. Dieu condamne les rapports en dehors du cadre du mariage. Mais dans le cadre du mariage, ils sont même une nécessité, un élément constructif dans la vie du couple. Mais l'amour de Jésus dépasse ce que j'ai envie de dire, ce que j'appellerais l'amour naturel. Parce que pour certains, ils pourraient se dire « Oh bah, c'est tout à fait normal de serrer les enfants dans les bras. C'est tout à fait normal !» De serrer son épouse dans les bras. C'est normal, c'est des élans naturels. Ah. Alors je vous invite là à lire un autre passage. Luc chapitre 7. Et là je vous poserai la question, est-ce que vous laisseriez, est-ce que vous toucheriez n'importe qui? Est-ce que vous laisseriez, et je pense là à un souvenir récent, embrasser quelqu'un qui sent mauvais par exemple? Je pose la question. Mais la question, on se la pose tous parce qu'on a tous été confrontés à ça. À embrasser quelqu'un qui aurait peut-être un aspect particulier sur son visage ou qui serait sale. Luc chapitre 7, verset 39. Un texte qu'on a déjà lu. Mais là, on va juste lire le verset 39. Le pharisien, c'est un homme très religieux, d'accord? Donc un homme très religieux avait invité Jésus. Voyant cela, il se dit en lui-même, « Si cet homme, si Jésus était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il saurait que c'est une pécheresse. » Qu'est-ce que c'est que la scène? Jésus, qui annonce l'évangile partout, qui fait des miracles, des prodiges, des gens ont la vie transformée, bouleversée. Personne n'arrive vraiment à reconnaître qui est Jésus dans sa divinité. Il paraît tellement ordinaire, tellement simple, tellement normal. Alors un homme religieux décide de l'inviter chez lui. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé chez des gens très religieux, mais imaginez voilà, le côté très, très apparent, très, très apparé. Et puis voilà, que chez cet homme, où tout est bien convenance, tout est propre, tout est bien cadré. On n'est pas chez n'importe qui, on est chez un représentant religieux. On n'est pas en boîte de nuit ni au bar, hein. On est chez le représentant religieux du village quand même. Voilà qu'une femme prostituée déboule dans la maison. Il n'y a pas d'autre expression. Elle rentre dans la maison. Et voilà qu'elle commence à toucher les pieds de Jésus. Peut-être que vous, ça ne vous choque pas cette situation. Mais déjà qu'un homme se laisse toucher par une femme en public, c'est déjà limite. Même si ce n'est que les pieds, mais qu'en plus, que cette femme soit une femme de mauvaise vie, une prostituée. Et là, cet homme religieux, il se dit, mais c'est pas possible. Si ce Jésus, c'était vraiment un homme spirituel, si cet homme, c'était vraiment un homme saint, si cet homme, c'était vraiment quelqu'un qui était de Dieu, mais il se laisserait pas toucher par des femmes vulgaires comme ça. Il ne se laisserait pas toucher par des pécheresses comme ça. Il ne se laisserait pas là souiller. Parce que c'est ça la pensée qui est en train de traverser l'esprit de ce religieux. Si Jésus était vraiment un homme de Dieu, il ne se laisserait pas contaminer par le péché de cette femme. Il ne se laisserait pas salir. Eh bien si, Jésus, le Fils de Dieu, accepte de se laisser toucher par les hommes, les femmes, de toute espèce que nous soyons, par les voleurs, par les menteurs, par des pécheurs, par des drogués, par des prostituées. J'ai récemment souri Il y a bientôt un procès qui va se passer. Je ne sais pas si vous avez entendu là les problèmes, enfin les problèmes, les histoires de prostitution qui se faisait avec des SK dans les hôtels au Carlton, avec un certain Dodo La Saumure. Vous n'avez pas entendu parler de tout ça? Et ce Dodo La Saumure, c'est qui? Ce Dodo La Saumure, c'est un proxénète. On sait tout ce que c'est, un proxénète. Un mec qui met les filles à la rue. Et ce proxénète, il disait, oh, je crains que à cause de DSK, je perde ma réputation. Histoire de dire, lui là, il est tellement horrible que moi à côté, il va salir ma réputation. Mais permettez-moi de vous dire que Jésus a accepté ça en se laissant toucher par une prostitution. Il a accepté de montrer au monde entier que Dieu n'est pas dans une tour d'ivoire loin de nos préoccupations, que Dieu n'est pas loin de la pauvre et du misérable, que Dieu n'est pas loin de nos situations grotesques et de péché, Dieu n'est pas loin de nos situations de larmes et de cris, que Dieu n'est pas loin de nos addictions, que Dieu n'est pas loin de nos horreurs, que Dieu n'est pas loin de tout ce qui nous salit. Non! Dieu n'est pas là dans une tour d'ivoire et nous serions loin et alors on croirait qu'il n'y a pas de connexion. Mais au contraire, Dieu se laisse toucher par la misère. J'ai même envie de vous dire que Dieu est touché par la misère de l'homme. Il y a un jeu de mots. Il nous dit que la miséricorde, c'est la corde qui est jetée jusque dans notre misère. Dieu est miséricordieux. Il envoie comme sa corde jusque dans notre misère pour nous sortir de notre misère. Et c'est une très belle image. Parce que Dieu accepte effectivement de casser cette réputation d'un Dieu qui serait loin alors que nous serions là, empêtrés dans nos difficultés, empêtrés dans nos péchés, empêtrés dans nos péchés misérables, obscurantistes. Non, le Seigneur est celui au contraire qui est encore ce soir capable de se laisser toucher et qui veut se laisser toucher par chacun d'entre nous. Mais allons plus loin. Allons plus loin. Qu'on se laisse toucher, embrasser par quelqu'un qui se sentirait mauvais, qui aurait une mauvaise réputation. Oh, pour vous donner une anecdote qui me traverse l'esprit. Oh, une situation qui me fait mal au cœur avec le recul. Une fois, j'avais rencontré quelqu'un et j'avais invité cette personne à venir à l'église. Et je lui donne un rendez-vous. Et cette personne, quand je viens la chercher, elle était habillée véritablement, mais comme une prostituée. Mais le cliché de la prostituée, habillée tout en rouge, jupe hyper courte, barésie, talons rouges. J'étais scotché, j'étais médusé, rouge. J'étais. Et vous savez le sentiment qu'il y a eu dans mon cœur? Ça a été la honte. La honte. Bah, Jésus l'aurait. Il n'aurait pas agi comme ça. Et ça, c'est un parfait exemple. Combien Jésus, lui, est prêt à venir jusque dans notre misère. Parce qu'il n'a pas honte de nous. Mais Jésus ne s'est pas limité à ça. Il ne s'est pas seulement limité à. Un travail de sentiment et d'estime des personnes. Si vous êtes encore dans Marc, je vous invite à aller au chapitre 1er. Marc, chapitre 1er, versets 40 à 42. Sinon, hein, si vous êtes perdu, ne vous inquiétez pas, les lectures ne sont pas longues. Il vaut mieux se concentrer. Marc, chapitre 1er, versets 40. Un lépreux. Oh, un lépreux, il va quand même pas toucher un lépreux quand même. Bon, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il dit d'un ton suppliant, « Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux. » Sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Amen. Waouh. Je me souviens d'une histoire d'un pasteur qui marchait dans la rue. Il y avait assis par terre un mendiant. Oh, c'était pas la première journée qu'il était là, cet homme. Il sentait mauvais. Il était visiblement sale. Et cet homme mendiant était là, par terre. Et le pasteur passe dans la rue faire ses courses. Bien sûr, il le voit de l'œil. Et voilà que le Saint-Esprit lui dit: arrête-toi près de ce monsieur et serre-le fort dans tes bras. Alors il regarde cet homme. Il a le regard que nous avons tous. Il analyse vite la situation. Il voit cet homme qui donne pas du tout envie, avec sa barbe pleine de choses sales, avec sa dentition, avec l'odeur qui va avec. Et puis, il obéit au Seigneur. Il invite à commence à parler avec lui. L'homme, il parle pas beaucoup, il reste bourru. Alors voilà que le pasteur lui demande de se lever. Cet homme se lève difficilement et voilà que le pasteur le prend de tout son corps et le serre de toutes ses forces dans ses bras. Toutes ses forces. Il reste quelques secondes comme ça. Et voilà que ce vieux monsieur commence à pleurer, à sangloter, à verser de grosses larmes. Et à partir de là, cet homme a commencé à ouvrir son cœur, à parler à ce pasteur. Il s'est donné au Seigneur et sa vie a été changée. Alléluia. Jésus est comme ça. Quand il est devant une situation de misère, comme cet homme lépreux, il ne regarde pas à la lèpre. Pourtant, si vous avez jamais vu de lépreux, allez sur internet, regardez quelques photos, ça donne pas envie de toucher. J'ai eu personnellement l'occasion d'aller dans un centre de lépreux. On fait pas le fier, hein. On sait pas trop où se mettre. On n'ose pas trop toucher, même nos semelles, on a plein de clichés, d'appréhensions. Mais Jésus ne regardait pas à la lèpre. Il était ému de compassion et c'est sa compassion qui l'a fait agir. Parce que la Bible nous dit que l'amour est plus fort que la mort, amen. Que l'amour est plus fort que la mort. Et que l'amour bannit la crainte. Et au-delà de ce que Jésus voyait, au-delà de la lèpre, qui était là, visible, ostensible, agressive. Jésus a posé sa main. Ne dis pas, oh, bah, c'est normal, c'est Jésus. Oh, bah, lui, c'est normal, de toute façon, il est immunisé. Mais il n'est pas immunisé, Jésus. Jésus était comme vous, comme moi. Oui, intérieurement, il était parfaitement Dieu. Alors oui, il avait cette autorité contre le péché, mais pas contre la maladie. Il avait faim, comme les autres, il avait sommeil, comme les autres. Il saignait comme les autres. Il pleurait comme les autres. Il était sensible comme les autres. Et face à la maladie, il était égal à tous les hommes et toutes les femmes de sa génération. Et devant un lépreux, il n'était pas plus immunisé parce qu'il était le Fils de Dieu. Mais il n'a pas regardé à tout ça. Son amour, son désir, son cœur, sa compassion a été sa force pour poser sa main et pour communiquer, pour montrer à cet homme que oui, l'amour de Dieu se manifeste par ce contact physique. Il aurait pu très bien faire ça de loin. Il y a tant de personnes dans la Bible où que Jésus a guéri à distance, sur un mot, dans une autre ville, en leur disant de le faire ça ou ça. Mais avec ce lépreux, il a voulu justement communiquer. Et on en parlait tout à l'heure, hein. Comme c'est difficile, un lépreux, qui était exclu des gens. Et on comprend pourquoi Jésus décide de toucher cet homme, pour lui redonner sa propre existence, lui redonner sa valeur dans son propre corps. Que Dieu est grand, et que Jésus a été parfait dans cette démonstration d'amour. Jésus ne change pas, mes bien-aimés. Les quelques exemples que nous avons vus ne sont pas finis. Jésus continue de toucher. Jésus continue de vouloir toucher. Sa compassion ne s'arrête pas là. Et plusieurs déjà en ce lieu ont déjà été touchés dans leur corps. Plusieurs dans ce lieu ont déjà été guéris. Plusieurs dans ce lieu ont déjà été délivrés d'addictions physiques telles que la drogue, le tabac et d'autres addictions diverses. Véritablement, Dieu continue de toucher les corps. Pour ne pas dire, même avec des sensations physiques, certains ont déjà senti des mains se poser sur eux alors qu'il n'y avait comme personne autour d'eux. Certains ont senti un feu s'allumer dans leur cœur. J'ai entendu des témoignages de gens qui voyaient, qui avaient vu des visions de la présence de Jésus, d'autres des anges. Il y a véritablement une manifestation physique que Dieu est capable de faire. Il y a aussi des hommes et des femmes qui témoignent que le jour où ils ont accepté Jésus dans leur cœur, ils vivent maintenant une véritable présence dans leur cœur. Ils ne savent plus ce que c'est que la solitude. Ils ne savent plus ce que c'est que ce vide qui animait tout leur être intérieur et qu'ils étaient obligés de combler par la radio, par la musique, par des activités diverses, parce que ce silence était tellement bruyant. Comment un silence peut être bruyant? Mais oui, il était même abrutissant ce silence, tellement il nous oppressait, tellement il nous ridiculisait, tellement il nous amenait à une solitude extrême. Mais le jour où on choisit Jésus, sa présence est réelle, elle est là, elle est bénéfique. Mais au-delà de tout ça, au-delà du contact physique, au-delà du contact réel que le Seigneur peut nous faire vivre, il est surtout celui qui veut toucher notre cœur. Il veut toucher notre cœur. Un jour, il y avait les apôtres qui étaient là et Pierre a pris la parole. Il a commencé à annoncer le message de l'Évangile. Et la foule qui écoutait, voilà ce qu'il est dit d'elle. C'est en Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, la foule, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ?» Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. » Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand les cœurs sont touchés, alors il y a quelque chose de bon, d'incroyable, de différent qui se passe. Et là, il y a, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de différent. Parce que quand le Seigneur touche nos cœurs, il apporte une paix, il apporte une joie, il apporte une espérance, il apporte comme une lumière qu'il n'y avait pas avant. On a l'impression qu'on découvre quelque chose qui apporte enfin une solution qu'on n'arrivait même pas à imaginer avant. Quand Dieu touche notre cœur, il y a un avenir et de l'espérance qui commence à venir dans notre vie. Alors oui, il est bon de se poser la question. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Continuez à entretenir cette relation avec le Seigneur Jésus. Faites-vous baptiser en obéissant de cette foi. Et réclamez, Seigneur, envoie ce Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui encore, Jésus est vivant. Alors vous ne le verrez plus, vous ne le verrez plus serrer votre enfant dans les bras, vous ne le verrez pas, et vous n'aurez pas l'occasion de venir toucher les pieds de quelqu'un, surtout pas du pasteur. Mais ce que vous pouvez faire, c'est dire, Seigneur, je ne te vois pas. Seigneur, je ne t'entends pas, mais tu me dis que tu es présent par le Saint-Esprit. Alors viens, Saint-Esprit, dans mon cœur. Encore ce soir, tu as dit que je pouvais recevoir le don du Saint-Esprit. Seigneur, je veux que tu viennes dans mon cœur. Je veux que tu viennes dans ma vie. Seigneur, viens, viens par ton Saint-Esprit me toucher, me bouleverser. J'ai besoin de cet attouchement. Oui, je sais par tes paroles que tu me valorises, que tu me redonnes de la dignité, que tu me redonnes de la perception. Et je sais également que par la présence du Saint-Esprit, tu es également celui qui peut me toucher dans mon cœur, dans mon âme, dans mes pensées, dans mes réactions, dans mon comportement. Mais je sais aussi que tu peux me toucher dans mon corps, parce que ça fait partie de tes promesses. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit est celui qui ce soir, comme Jésus l'a fait il y a quelques années, avec ce lépreux en posant sa main et qui lui a dit « Oui, je le veux, sois pur ». Encore ce soir, le Saint-Esprit veut poser sa main sur vos vies, sur vos âmes, pour que vous entendiez sa voix qui vous dit « Oui, je veux que tu sois pur. Je veux que tu sois purifié. Je veux que tu sois nettoyé de tes angoisses. Je veux que tu sois débarrassé de ta maladie. Je veux que tu commences une vie pleine d'espérance. Je veux nettoyer tous ces points noirs de ta vie. Je veux te délivrer de tous tes boulets de ta vie. Je veux te donner cette opportunité nouvelle de reprendre ta vie à zéro, te purifier, te nettoyer, te redonner de l'élan. » Encore ce soir, le Saint-Esprit est là, présent, pour nous toucher, pour nous vivifier et pour nous donner cette relation intime, pleine d'amour avec Jésus. Amen.
Amen.